Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, en ce moment où nous venons nous édifier par l'écoute de ta parole, nous prions qu'elle soit inspirée de toi, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins, tu connais nos réalités, Seigneur éternel. Nous prions que tu parles à nos cœurs, Seigneur éternel. Nous prions que tu changes positivement bien des choses dans nos vies en ce jour éternel. Conduis ces moments, éternel Dieu, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.
La dernière fois, j'ai vu qu'on a fait le groupe des dormeurs, le groupe des travailleurs. Je ne sais pas si je dois dire les riches devant, les pauvres derrière. Non. Non. Il n'y a pas cette discrimination dans l'église entre les riches et les pauvres. Le sujet de l'argent est un sujet à la fois vaste et crucial, au point que Jésus dit: où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est que c'est une affaire sérieuse. C'est que ton rapport à l'argent peut déterminer où est vraiment ton cœur. Tout ce que tu peux faire à côté n'est que accessoire. Et dans le rapport à l'argent, je me souviens à l'université, dans une première formation que j'ai faite en commerce international, au cours de finance, on fuyait le cours de finance parce qu'on se disait, c'est l'argent, c'est l'affaire des comptables. Nous, on est là pour faire du commerce. Après, on ne gère pas les sous. Et un jour, le prof nous a interpellés, nous a dit, quand vous allez chercher l'argent et votre DG va dire, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Puisque vous n'êtes plus en train de chercher, c'est déjà là, vous serez très embêté. Alors, j'ai poussé plus loin, je suis allé faire une formation en banque et assurance pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Et c'est tombé à la période des subprimes où on s'est rendu compte que l'argent est tellement volatile. Et un prof nous disait, quelle est la valeur de l'argent aujourd'hui? Par le passé, ce qu'on te remettait comme document d'argent en banque, il y avait un équivalent réel en or en banque. Mais de nos jours, c'est des écritures. Même avec document Excel, on peut gérer les comptes bancaires. On fait un moins là, un plus là. Que vaut l'argent? Le billet qu'on imprime sur une imprimante, c'est ça l'argent qui nous passionne tant. Quelle est la valeur de l'argent de nos jours? On s'interroge. Et quand on lit Proverbe, on semble voir dans la sagesse des auteurs de Proverbe qu'ils anticipaient déjà tout ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir que l'argent finalement est devenu quelque chose qu'on imprime, que tout le monde, entre guillemets, peut imprimer. L'homme le plus riche d'Afrique, Dangote, un jour a voulu s'assurer qu'il a vraiment ces milliards dont on parle en compte. Il dit qu'il est allé commander $1 million dans son compte, a demandé qu'on lui remette. Il a mis dans sa voiture, c'était plein. Il est rentré, il a passé la nuit avec. Il a dit, oui, là, je suis vraiment millionnaire. Parce que ces affaires où je vois les écritures, je ne sais plus si vraiment je le suis. Et après, il allait redéposer à la banque, c'est-à-dire le rapport à l'argent dépend un peu de plusieurs paramètres. Il y a beaucoup de confusion qui nous mène en erreur concernant l'argent. Je rends grâce à Dieu de ce qu'Olivier nous a parlé de ce passage central. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y rajoute rien. Ça, c'est la traduction du Semeur. Il a lu tout à l'heure dans la traduction du second qui dit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On a eu les explications qu'il fallait. J'ai souhaité, puisque le sujet est tellement large, prendre quelques points clés et en développer l'essentiel dans le laps de temps que nous avons. Alors, si on nous demandait de définir l'argent ou le but de l'argent, Il serait compliqué d'ailleurs de définir ce que c'est après avoir entendu ce que je viens de dire. Est-ce que l'argent, c'est le papier qu'on imprime? Est-ce que l'argent, c'est l'écriture sur un logiciel, sur nos comptes bancaires? Qu'est-ce que l'argent? Bon, bonne question. Mais par contre, le but de l'argent, quand nous lisons dans Proverbe 11, 16, les paresseux n'ont jamais d'argent, les hommes énergiques obtiennent les richesses. On comprend que l'argent émane d'un travail, c'est-à-dire l'argent, c'est le fruit d'un travail. Le paresseux n'en a pas parce qu'il n'a pas travaillé. Le travailleur en a parce qu'il a travaillé. Et quelle est la finalité de l'argent? On voit dans ce passage que les hommes énergiques obtiennent les richesses. Ceux qui travaillent, en théorie, s'enrichissent, comme disait quelqu'un. Travailler plus pour gagner plus. Bien qu'il y a toujours des réserves à émettre à de telles paroles qui, dans l'absolu, ça marche. Mais il y a d'autres réalités. Et en recherchant dans le but de l'argent, pourquoi je cherche l'argent? Paul y répond d'une façon assez curieuse dans Éphésiens 4, 28. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. À la base, je croyais que je travaillais pour moi. Mais Paul dit, l'argent que tu gagnes, ta pensée première ne devrait pas être toi, mais ceux qui sont dans le besoin. Et c'est vraiment au cœur de la pensée de Dieu, la notion de venir en aide aux autres. C'est vrai, Paul dit, mes mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui sont avec moi. Donc, ce qui suppose que notre recherche de l'argent devrait avoir pour but de pourvoir à nos besoins et aux besoins de ceux qui sont avec nous ou aux besoins de ceux dont nous avons connaissance qui ne peuvent satisfaire leurs besoins si ce n'est pas une aide de notre part. C'est-à-dire que le but de l'argent, ce n'est pas satisfaire nos envies, nos convoitises. Je convoite telle belle voiture, je travaille à fond pour l'avoir, alors qu'avec une voiture plus modeste, je parviens à faire la même chose et je peux aider bien des personnes avec le supplément. Le but de l'argent, c'est satisfaire un besoin pour les autres et idéalement pour nous aussi quand même, avant d'aller vers les autres. Alors, se pose la question des sources et motivations qui nous poussent à rechercher l'argent. Et quelles sont les conséquences qu'il y a derrière? Proverbe 1, 19 dit, « C'est à cela qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par des voies malhonnêtes. Un gain mal acquis fait périr celui qui le détient. » Dans l'immédiat, on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a de mal. Je fraude un peu, je déclare un montant en dessous de la normale, je travaille au black, etc., etc. Je fais de mal à personne. Mais la Bible nous dit qu'elle fait périr celui qui le détient. Elle contribuera à ta chute, elle contribuera à ta ruine. On a vu des gens avoir un contrôle fiscal et attraper une crise cardiaque parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on démasque leur fraude. On sait, pour nous chrétiens, que celui qui vit dans la fraude et de façon malhonnête, bien évidemment, nuit à sa relation avec Dieu. Et c'est la plus grande des perditions que d'avoir une relation brouillée avec le Seigneur à cause de l'argent. C'est pour ça que quand des personnes, parce que dans une vie antérieure, je faisais l'accompagnement à la création d'entreprise, quand un chrétien vient pour monter un projet d'entreprise, on est tout de suite dans, on veut tout de suite gagner l'argent, etc. Et la question parfois que je pose, est-ce que tu as prévu que tu vas payer la TVA, tu vas gagner beaucoup d'argent, mais plus de la moitié ira aux impôts. Et certains disent, ah ben non, c'est le fruit. Non, c'est ça la règle. Avant de t'engager, détermine-toi. Et dans ses vies antérieures, toujours, un frère qui avait un projet de start-up très porteur, et c'est certainement en train de marcher, était venu donc me voir pour qu'on travaille le projet pour optimiser sur le plan fiscal. Et effectivement, le projet en franc CFA rapportait des milliards, dont en euros, et des millions. J'ai l'honnêteté de lui dire, frère, mon cœur n'est pas prêt aujourd'hui à avoir un milliard et prendre 700 millions à les donner à l'État. Je risque dans cette affaire m'embrouiller, me compromettre, Donc, s'il te plaît, fais le business avec d'autres. J'y viens tout doucement. Nous devons avoir le courage de refuser certaines opportunités parce qu'on risque de se brouiller, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Une richesse acquise, dit Proverbe 13, 11, par des moyens douteux se dissipe. Amassée peu à peu, elle se multiplie. On veut gagner rapidement de l'argent. Pour certains, c'est le loto, pour d'autres, c'est participer à des braquages. On veut s'enrichir très rapidement. Et quand on voit les statistiques de personnes qui ont gagné au loto, la suite de leur vie est parfois catastrophique. Tel, à peine il a gagné, qu'il divorce, voilà, avec une jeune. Tel finit alcoolique, tel finit dans la rue. C'est arrivé trop vite. On a soupiré après l'argent et l'argent finit par causer notre ruine et se dissipe facilement parce qu'on l'a acquise par des moyens douteux. Mais celui qui amasse peu à peu, il va selon sa réalité, selon sa capacité à prendre la chose. C'est un peu comme des responsabilités. C'est un peu comme tu es nouveau converti. À peine tu viens de croire, tu te dis, ah ben je vois comment le pasteur prêche, je peux faire pareil, je peux faire comme lui, je peux prendre cette responsabilité sans comprendre tout le travail qu'il y a derrière, rien que pour préparer un message. Et tu ne peux aller que d'erreur en erreur, tu vas te laisser écraser par la charge de travail. Pareil, nous n'avons pas tous la même capacité à gérer un certain volume d'argent. Donc laissons-nous aller peu à peu, sans jalouser les autres, sans envier les autres, allons à notre rythme et Dieu multiplie selon qui voit notre fidélité dans peu de choses. Dans le Proverbe 10, 16, nous lisons, le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Vous voyez la finalité de ce qu'on gagne. Le juste, lui, mon travail, ça me fait avoir de quoi vivre. Gloire à Dieu. J'avance. Comme dit Paul, si nous avons de quoi manger, nous vêtir, cela nous suffit. Dieu pourvoit à mes besoins. Mais le méchant, ce qu'il gagne, sert à faire le mal. Ce qu'il gagne, vous savez, il y a des personnes qui ne vont pas vers des prostituées, pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Le jour où il en aura, il va commettre ce mal. Donc, c'est souvent en possession de l'argent qu'on voit les réalités des gens se manifester. Donc, ne sois pas trop sûr de toi en te disant, non, je suis pur, je suis saint, parce que tu n'as pas l'argent. Le jour où tu en auras, peut-être une dimension de ton être va se manifester. Il faut toujours s'examiner pour être sûr qu'on est dans des bonnes dispositions internes, de sorte que l'argent ne sera pas utilisé pour faire du tort. Du tort corrompre, du tort dépraver des mœurs, du tort, voilà, faire des choses qu'en situation normale, on n'aurait pas fait. Donc, plus un méchant s'enrichit, plus on devrait trembler parce que ce qu'il peut faire avec son argent. Vous savez, la guerre aujourd'hui, si elle a lieu, c'est parce que des gens ont les moyens d'acheter des armes de guerre et nous en connaissons les conséquences. Je vais sauter le verset 22 du Proverbe 10 dont nous a parlé le frère Olivier pour en venir au Proverbe 11, 7. Quand le méchant meurt, tous ses espoirs périssent et la confiance qu'il avait placée en ses ressources s'effondre. Voilà le sort du méchant qui a passé le temps à amasser. Et Proverbe est assez riche que, franchement, à un moment donné, je me suis dit, faut peut-être que j'aligne juste les versets, que je les lise, parce que dedans, il y a et la réflexion, et l'interprétation, tout est dit. Ce sont des paroles de sagesse. Donc, quand on se met dans la posture de méchant, on vit comme un méchant, on imite les méchants, on envie les méchants, on fonctionne comme un méchant, et on est fier de nos richesses. Et soyons conscients qu'après notre mort, tous nos espoirs périssent et la confiance qu'on avait placée en nos ressources s'effondre. Parce que face à la mort, notre argent ne peut rien pour nous. On a un sentiment de sécurité quand on a de l'argent, mais face à la mort, on voit nos limites. Et le verset 22 de Proverbe 13 dit quelque chose qui interroge. Ce que l'homme bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants. Mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Tu as fait le choix d'être pécheur, de dire « la vie c'est un tour » comme on dit dans mon pays. Donc je vais vivre comme je veux. Après ma mort, il n'y a plus rien. Tu seras bien surpris ou surprise de découvrir qu'après la mort, tu devras rendre compte de ce que tu as fait, de l'argent que tu avais ici-bas. Les conséquences peuvent être drastiques. Et le sage dit, en réalité, tout ce que tu as amassé est mis de réserve pour le juste, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, faisons attention à l'origine de nos fonds. Assurons-nous qu'ils soient propres. Il n'y a pas de... L'argent n'a pas de couleur. Non, il y a l'argent sale. Assurons-nous qu'on a gagné honnêtement notre argent. Assurons-nous, si tu te lances, bon, c'est vrai dans le contexte ici, mais si tu te lances ici dans une activité lucrative, tu ne veux pas créer d'entreprise, mets-toi au moins comme auto-entrepreneur. Aie un statut, rentre dans la légalité. Cette facilité à dire on fait au black et tout, je sais qu'il y a la tolérance administrative pour certaines opérations, mais sois sûr de ne pas traverser les limites fixées par la loi, sinon tu es en train de t'amasser des occasions de ruiner ta propre vie, de ruiner ta relation avec Dieu. Et puis un jour tu diras, je ne comprends pas, ma vie spirituelle, ça n'avance pas. Et le passage de souviens-toi d'où tu es tombé te reviendra. Tellement tu t'es embourbé dans l'anomalie que tu ne sais même plus où tu as péché. Et ça devient compliqué, c'est pas évident. Donc veillons à avoir des bonnes sources pour notre argent. Et ce qui nous motive à chercher l'argent, que ce ne soit pas pour des ambitions démesurées ou pour de mauvaises intentions, parce que les conséquences sont là. Elles sont dramatiques pour notre vie spirituelle. Elles sont dramatiques même pour ces finances en question, parce que la fin n'est pas des plus agréables. Alors, l'influence de l'argent sur nos comportements et postures. Vous voyez, quand une personne est pauvre, il est dans « s'il te plaît, bonjour ». Mais dès qu'il est riche, il bombe le torse. Quand il te parle, il te voit, des distances se créent. Il se dit « mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Des changements s'opèrent. Il se croit dans un autre univers. C'est très dangereux. Quand on n'est pas préparé à avoir l'argent, ça peut affecter très négativement notre vie. Remarquez ce que Proverbe 14, 20 dit. « Personne n'aime le pauvre. » Personne. Même pas son compagnon, mais le riche a beaucoup d'amis. C'est pourquoi Jacques disait à l'église, quand un homme entre avec un anneau d'or, vous le mettez en des places privilégiées, mais le pauvre, vous le rabouez parce qu'il est pauvre. C'était une réalité qu'on vivait dans l'église. Un peu comme si l'âme du riche a plus de valeur que l'âme du pauvre. Pourtant, Paul disait, je n'ai eu la pensée autre que de connaître Christ et Christ crucifié dans la pensée de votre vie spirituelle. Mais dans l'église à l'époque, et c'est encore une réalité de nos jours, je rends grâce à Dieu, ce n'est pas une publicité, de ce qu'à Cardinet, j'observe qu'il n'y a pas ces distinctions-là. Mais peut-être que ce n'est qu'à Cardinet, il y a quelques endroits. La règle de nos jours, c'est les plus riches sont devant. Et une fois, Juliette me disait, je suis allé à une église, j'ai vu on donnait l'offrande, l'argent et tout. Elle n'était pas habituée. J'ai dit, oh là là, donc ma soeur, la réalité, c'est que le rapport à l'argent est parfois très mis en valeur dans certains milieux. Et j'ai dit, gloire à Dieu, voilà une personne qui a grandi dans un rapport à Dieu sans que l'argent ne prime et n'étouffe les prédications. Donc malheureusement, le pauvre est négligé. Pourtant, le pauvre peut être d'une telle utilité pour l'Église. Pas parce qu'il est pauvre, mais parce que dans sa pauvreté, il a une bonne relation avec Dieu. Mais on a tendance à regarder aux riches, à privilégier les riches. Et Jacques va jusqu'à dire que ce sont ces riches-là qui vous persécutent et tout, comme s'il avait un problème contre les riches. Ce n'est pas exactement ça le fond de sa pensée. C'est de dire, ne laissons pas l'argent influencer nos comportements envers un frère. Si un frère est riche, allez, très bien, il aura des amis, on va le côtoyer. Mais si un frère pauvre, quand il vient à l'église, on ne s'intéresse même pas à lui. Il vient, il repart, personne pour lui dire bonjour, bonsoir. C'est un pauvre, qu'est-ce qu'il y a de bon en lui? Même pas son compagnon. On a vu des compagnons lâcher leur ami pour quelqu'un de plus riche. Et c'est à tel point que le sage dit dans le Proverbe 13, 7, tel joue aux riches et n'a rien du tout, tel autre fait le pauvre, tel autre qui fait le pauvre possède de grands biens. Vous voyez, puisque l'image de la société, il y a peut-être un bug dans l'écriture, est que les riches sont mis en valeur. Alors, il y en a, ils n'ont pas les moyens, mais ils vont tout faire pour paraître riches, comme si c'était une fin en soi. Et on en vient à dire, oui, parce que Dieu, quand il bénit, il nous bénit matériellement, on va y revenir. Quand dans la société, tu passes pour humble, tu passes pour pauvre, on ne te considère pas. Mais dès le moment où on identifie un potentiel financier en toi, tu deviens intéressant. C'est comme ça que les arnaqueurs, ce qu'on appelle également des fémans dans mon pays, font du bluff. Et puisque ils passent pour riches, ils s'attirent des amitiés, ils s'attirent des liens. Mais quelle est la finalité? Quelqu'un disait, Jésus ne s'est pas lié d'amitié avec César, Hérode et compagnie, non pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce que ça ne l'intéressait pas. Mais de nos jours, parce qu'on veut des avantages financiers, on est prêt à réduire notre statut de chrétien assis dans les lieux célestes pour aller se plier aux exigences de personnes soi-disant qui ont les moyens financiers. Le Proverbe 11, 24, tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent, tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Toujours dans ma vie antérieure, il y a eu un placement, Natixis, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, on nous l'a vendu énormément. Et on avait un peu d'argent, on va à la conseillère, nous le vend, je vois Banque Populaire fiable, Natixis fiable, Caisse d'Épargne. On a fait le placement. Ce placement a perdu de 1000% de sa valeur, des dizaines d'euros que ça valait au moment où on a acheté. Ça ne vaut même plus les centimes. Je ne regarde même plus ce que c'est. C'est parti, c'est parti. Je ne sais pas si j'ai mal fait ou pas. Je ne dis pas que c'est mauvais d'épargner, mais il y a des expériences qu'on a qui nous donnent à réfléchir. Le rêve, enfin mon rêve en tout cas, serait qu'à ma mort, que sur mon compte, je sois déjà à zéro. C'est-à-dire que j'ai préparé certes l'avenir de mes enfants, que j'ai assuré. Parce que une fois mort, à quoi ça va te servir d'avoir ton compte bourré d'argent? C'est peut-être dangereux de vivre ainsi, mais c'est dommage qu'il y ait des gens dans le besoin et que toi, tu aies de l'argent sur le compte. Tu me dirais, bon, j'épargne pour acheter ma maison, j'épargne pour quelque chose de précis, ça a du sens. Mais juste mettre de côté, on a me reproché à un chef d'État que vous connaissez tous, qui laissait de l'argent dormir sur son compte courant, alors qu'il peut le mettre sur un compte épargne et ça rapporte de l'argent. C'est dire à quel point on peut être maladroit dans la gestion de l'argent, alors qu'il y a des besoins autour de nous. Alors, on en vient au rapport entre Dieu et Mammon. Jésus nous dit, Matthieu 6, 24, nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est clair, c'est limpide. Ça ne souffre d'aucune interprétation. Si tu as fait le choix, tu ne peux pas servir Dieu et l'argent en même temps. Tu peux pas faire l'amalgame entre la proportion de mon argent détermine la proportion de bénédiction de Dieu dans ma vie. Ça ne marche pas comme ça pour le croyant. On ne peut pas servir Dieu et l'argent en même temps. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce qui crée la confusion? C'est que Mammon, Dieu de l'argent, ou l'argent comme définit la Bible du Sémeur, nous donne ou semble nous donner ce que Dieu nous donne. Ok? Est-ce que Dieu a besoin d'argent pour nourrir les oiseaux du ciel. Non. Mais moi, pour acheter ma baguette, j'ai besoin d'argent. Donc, pour me nourrir, j'ai besoin d'argent. Puisque l'argent donne la nourriture, Dieu donne la nourriture, alors pour celui qui n'a pas une foi ferme, il aura tendance à croire, eh bien, je me mets au service de l'argent qui me donne de la nourriture, c'est plus sûr, je ne prends pas de risque. Alors que l'autre qui a la foi dit, je travaille, non pas parce qu'on m'a imposé de travailler, mais parce que Dieu qui pourvoit à mes besoins me demande de travailler. Si je paye mon boulot, il pourvoira, pourvu que je fasse ce que j'ai à faire. Mais quand on est esclave, quand on est serviteur de l'argent, quand l'argent, comme on le dit, devient un maître plutôt qu'un moyen, c'est là où le problème se pose. Que je me dise, je cherche l'argent pour un but précis, c'est louable, mais que je sois en train de travailler de façon acharnée, il y en a, ils prient pour avoir un boulot, on prie pour eux, mais dès qu'ils ont le boulot, leur vie de prier, ils ne prient plus, ils ne lisent plus la Bible, ils ne viennent plus au culte, ils sont... Voilà, on se pose la question, finalement, est-ce qu'on a bien fait de prier pour que ce frère ou cette sœur ait le boulot? Parce que ça devient un problème, finalement. On est en train de perdre un frère qu'on voyait en train de grandir dans la foi. Parce que dans l'engagement où il a pris, l'argent est devenu le maître. On travaille pour l'argent et non pas pour Dieu. Et il y a toujours des justificatifs, assurez-vous. L'homme a toujours, comme depuis Adam, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, qui a fait que je pêche. Aujourd'hui, tu vois, Seigneur, j'ai des besoins, je ne peux pas y associer cela. On a toujours des raisons. Mais avec le temps, on se rend compte qu'on s'est bien trompé. Pour qui est-ce que tu travailles? Où est ton cœur? Où est ton trésor? Là où est ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Si tu travailles comme pour le Seigneur, comme dit la Bible, ça va. L'argent ne va pas t'empêcher de mener ta vie chrétienne normale. On en vient à oublier que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous n'avez pas vu Jésus pour payer les impôts? Si je ne me trompe, il a envoyé qu'on pêche le poisson, c'est ça? Et puis on retire de l'argent dessus. Nos comptes bancaires sont partout, dans l'eau, dans les arbres, il y a de l'argent partout. Ne vous inquiétez pas. Si Dieu voit vraiment que tu es dans le besoin, un poisson, un arbre, il y a de l'argent quelque part. Ne croyez pas mot pour mot ce que je dis, mais comprenez en cela que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Jésus n'a pas eu besoin de travailler pour avoir cet argent-là. Ça veut dire, si tu perds ton boulot, ne sois pas traumatisé. Dieu pourvoira quand tu continues à chercher ton boulot, que l'argent ne détourne pas ton cœur de Dieu au point de t'amener à te compromettre. Il dit, la richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais être juste sauve de la mort. Ta richesse ne te servira à rien. Il y a des systèmes établis, les diligences, bon, où tu donnes l'argent, ça disait, dès que l'argent touche le fond du panier, l'âme de ta personne qui était au purgatoire décolle pour se retrouver au paradis. Et les gens pensent qu'avec l'argent, non. L'argent ne peut rien après ta mort. C'est de ton vivant que tu dois mettre ta vie en règle. Ça ne sert à rien de compter sur ton argent qui te décevra tôt ou tard. Qui a ses limites, confions-nous en Dieu qui possède l'or et l'argent et qui a le pouvoir et de juger notre corps, de le faire périr, et juger notre âme. Et d'ailleurs, le sage dit au Proverbe 3:14, acquérir la sagesse vaut mieux que beaucoup d'argent. Comprenez ça, c'est Dieu qui parle. Depuis, nous sommes sur le thème de la sagesse. Tout ce que nous avons entendu depuis doit avoir plus de valeur pour nous que de chercher l'argent. Ça devrait nous passionner. Et nous nous rendons compte que dans cette dynamique, Dieu pourvoira que nous ayons l'argent nécessaire pour un usage honnête et convenable. C'est ça la bonne sagesse relativement à l'argent. Ne fermons pas les yeux sur l'obscurité, faisons attention à notre rapport à l'argent. Vaut mieux être sage et entre guillemets pauvre que riche et insensé. J'aime mieux être le pauvre Lazare que le mauvais riche s'il faut faire ce choix radical. Mais de nos jours, on dit l'évangile de Lazare est passé. Maintenant, nous régnons le kingdom now. Et en quelques minutes, je finis sur le dernier aspect. Paul, le croyant et la prospérité matérielle. Il y a une confusion énorme que nous faisons. Et il est important, quand nous lisons les Écritures, de faire la distinction entre Israël et l'Église, ces deux entités différentes. Entre le juif et le chrétien. Il y a des paroles qui étaient adressées aux juifs, que l'on peut, par une certaine alchimie, l'affecter aux chrétiens, mais c'était pour le juif, pas pour le chrétien. Que le juif, aujourd'hui, fête la sortie d'Égypte, c'est normal. Mais moi, chrétien, je ne suis pas concerné. Ça concerne bien le juif, son peuple qui est sorti, mais moi, le chrétien, je suis concerné par Christ, notre Pâque qui a été immolé. Ne faisons pas des confusions entre les personnes. Dans autant, le juif, pour la plupart du cas, la richesse matérielle était vue comme une bénédiction de Dieu. Non pas que tous les justes étaient riches à l'époque, mais ça marquait une distinction. C'est en cela que Salomon a été mis en valeur, sans cela que plusieurs personnes dans l'Ancien Testament ont été mises en valeur. Mais pour nous, notre royaume, il est spirituel. Notre royaume, il n'est pas physique. On n'est pas dans le domaine matériel. C'est pourquoi le grand pôle, qui serait aujourd'hui l'équivalent, entre guillemets, du pape, on va dire, dit, ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Comment tu n'arrives pas à être content avec ce que tu as? Tu en veux toujours et toujours. Et les gens sont dans le besoin à côté de toi. Tu évolues et tu es dans quelle dynamique? Paul dit, je sais vivre dans le dénuement, dans le manque. Je n'en ai pas. Je ne pense pas que Dieu m'a maudit parce que je n'en ai pas. Non, je sais me contenter. Si nous avons de quoi manger et nous vêtir, cela nous suffit. Je sais aussi vivre dans l'abondance. Ça ne veut pas dire que le modèle chrétien, c'est le modèle de pauvreté. Non, un chrétien peut être riche. Mais richesse ou manque n'influence pas son fonctionnement parce qu'il se contente de ce qu'il a. Et c'est ce même Paul qui dit qu'il a travaillé pour pourvoir ses besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec lui. Il dit, c'est le secret que j'ai appris. Mais le secret, c'est quelque chose de confidentiel qui n'est pas accessible à tous. Mais tous n'ont pas appris ce secret. Certains ont versé dans il faut être pauvre, le matériel, non, c'est le diable, il ne faut pas y toucher, d'ailleurs, etc. D'autres à l'extrême, non, la bénédiction matérielle, c'est la preuve qu'on est avec Dieu. Et non, le secret, c'est ça. M'accommoder, ouais, le secret que j'ai appris, deux points. Vous savez, quand on met deux points, ça veut dire, je vous explique ce que je viens de dire, quand on met deux points. En français, m'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances. C'est le secret que j'ai appris. Ne pas me prendre la tête. Et dire, que je sois rassasié ou que j'aie faim. Parce que souvent, quand on a faim, on pense que Dieu nous a maudits. Ou parfois, quand on est rassasié, on pense que Dieu nous a bénis. Ça n'a rien à voir. Les hommes du monde sont plus rassasiés que nous parfois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des choses matérielles. C'est une dimension qui ne doit pas influencer notre relation avec Dieu. Que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Ce qui m'importe, c'est d'être en connexion avec celui qui me fortifie, dans la famine comme dans l'abondance. Il y en a dans l'abondance qui meurent de crise cardiaque, qui meurent d'abondance justement. Donc voilà, c'est dire qu'est-ce qu'on veut réellement. Proverbe 30, 7 à 9, il dit, Éternel, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas. Vous entendez? Tellement c'est important pour lui, s'il te plaît. Avant d'entendre ce que je vais dire, ne me les refuse pas. Parle d'abord, après on verra. C'est dit combien c'était important pour lui ce qu'il demandait. Une prière qui serait rare de nos jours. Garde-moi de dire des paroles fausses et mensongère. Et la deuxième chose, bon, vous voyez, le gars veut vivre dans la pureté, il ne veut pas vivre dans le mensonge, etc. Mais la deuxième chose qui concerne le thème d'aujourd'hui, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre. Je ne sais pas combien de chrétiens prient cette prière. Moi, je ne prie pas exactement comme ça. Je demande des superflus, des réserves, des plans B. Il dit juste, c'est-à-dire je mets ma confiance en toi, pas plus, mais surtout pas moins. Juste ce qu'il me faut. Je ne veux pas m'acheter une, on dit Bugatti ou Bugatti. Je ne veux pas acheter, Ferrari. Je ne veux pas, non Seigneur. Si ma BMW double pied me permet d'aller partout, je vais à pied avec ma BMW double pied. Donc, s'il faut autre chose, donne-moi juste le nécessaire pour vivre. Et s'explique à Dieu comme si Dieu ne comprenait pas. Mais ça a été écrit pour notre instruction également. Il dit, car dans l'abondance, je pourrais te régner. Et dit, qui est l'Éternel? Parce que j'ai les moyens. Je veux m'acheter une voiture, j'achète. Je veux si, je fais. J'ai les moyens de faire. Je n'ai pas besoin de l'Éternel. Qui est l'Éternel? Il avait peur de ça. Ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. Lui, il était dans l'ancienne alliance. Et vous comprenez que Paul vient dire, même dans la pauvreté, j'ai appris à vivre grâce à celui qui me fortifie. Lui n'avait pas cette dimension que Paul avait, qui est censée être la nôtre pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Et les deux derniers versets qu'on va lire sont dans 1 Timothée 6, 6 à 10. La véritable foi en Dieu, c'est-à-dire la piété, est en effet une source de richesse quand on sait être content de ce qu'on a. Il faut savoir être content de ce qu'on a. Pas besoin de te compromettre pour en avoir trop. Il n'y a pas de souci si tu en as trop, si c'est venu honnêtement. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Ce serait bien dommage, comme je vous disais, de laisser un compte bancaire plein alors que ça aurait pu aider les gens et augmenter mon crédit dans mon compte au ciel. Donc, vous devez être débité ici et crédité au ciel que de partir en laissant tout et ça va servir à quoi? Tant que nous, je parle avec les réserves, si on a des enfants et tout, on doit organiser la relève. Vous comprenez le fond de ma pensée. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Est-ce que tu en es arrivé là? De te dire, s'il y a de quoi manger, mes petits, ça me suffit. Pourquoi je m'encombre du reste? Que Dieu nous aide. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation. C'est toi-même qui t'expose. La tentation n'était pas là. C'est toi-même qui veux absolument t'enrichir. Alors des voix, voilà, comme on ne paye pas le salut d'après une certaine théorie sur laquelle je ne m'exprime pas, alors tu peux te dire, Dieu est miséricordieux. Donc, si je vole, je suis riche, je demande pardon, Dieu me pardonne. Ça y est, c'est bon. Si je fais tel truc, j'ai l'argent, non, ça va te poursuivre. Si ce n'est pas sur le plan du salut, ça te poursuivra sur un autre plan. Il dit, et tombe dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Pourquoi te donnes-tu cette peine? Si tu as déjà de quoi manger et te vêtir, pourquoi n'aurais-tu pas ta vue autrement? Bon, parce que le système est ainsi. On nous apprenait en fiscalité que la loi n'interdit pas de frauder, mais interdit qu'on t'attrape quand tu as fraudé. Donc du coup, tu te dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire du coup? Et on a établi depuis un ou deux ans le droit à l'erreur. Les gens abusent de ce droit à l'erreur pour déclarer des faussetés, et on l'attend, ah mince, c'était une erreur, le droit à l'erreur, et on rentre dans n'importe quoi, parce qu'on veut cacher de l'argent. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Toutes sortes de maux. On n'a pas le temps pour détailler, mais vous comprenez très bien ce que la cupidité est capable de faire dans la vie de l'homme. Pour s'y être abandonné, certains se sont égarés très loin de la foi. Ils étaient dans la foi, et ils sont garés très loin, dans les exemples que j'ai cités tantôt. Et se sont infligés beaucoup de tourments. Tu vois quelqu'un qui rayonnait, sa vie est devenue fanée. Pourtant, la personne est pleine d'argent, pleine de... et ça nous fait de la peine. Et Jésus le conclut, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Toutes ces choses, c'était le vêtement, c'était le manger, le boire, toutes ces choses. Ce n'est pas l'argent qui vous les donne, c'est Dieu qui pourvoit. Et quand même vous achèterez avec de l'argent, sachez à votre grand regret que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Là où vous croyez lui avoir échappé, vous retombez toujours entre ses mains. Que le Seigneur le bénisse. Amen.